le réseau intentionnel d'influence, c'est vraiment quelque chose que j'amène mes clients à réfléchir parce qu'on parle souvent de l'avatar ou du persona du client idéal. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on ne parle pas assez de l'avatar ou du persona de l'influenceur. Et là, je parle pas nécessairement juste de l'influenceur style Instagram 10 000 abonnés, mais vraiment des gens qui sont dans notre réseau et qui ont une influence positive sur nos clients potentiels, sur nos prospects, et qui peuvent, eux, devenir des ambassadeurs de notre marque sans même devenir nos clients. Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 86. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Bon été, bonnes vacances si les vacances sont à portée. Sinon, si vous revenez de vacances, j'espère que vous êtes reposées. Je reviens d'une semaine et quelques jours de vacances et je dois vous avouer qu'avec un enfant de 2 ans, c'est pas hyper reposant, mais c'est toujours le fun de changer de perspective, de changer d'environnement, et pour ça, ben, je suis très 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 heureuse d'avoir pu prendre ce temps-là. Et ben, dans le fond, c'était un temps de repos avant une période assez intense, parce que la semaine prochaine s'entame le Festival Web de création de contenu, un festival gratuit qui va avoir lieu sur une semaine et dont je suis co-organisatrice avec Alexandra Martel, Marjorie Smith, Josiane Nantel et Aimé Desrosiers. Et on a super hâte, dans le fond, de vous accueillir. Dans le fond, quand vous allez écouter cet épisode, le festival va se terminer, mais je suis aussi en préparation du lancement officiel de mon nouveau programme Money Brand qui va, dans le fond, il y a un atelier gratuit qui aura lieu le 15 juillet. Si vous voulez votre invitation pour l'atelier, tout ce qui vous reste à faire, c'est de remplir l'application pour Money Brand à moneybrand.co. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode et vous allez m'entendre en parler en courriel, en infolettre sur Instagram, sur LinkedIn, bref, je suis dans cette initiation de la nouvelle partie de l'aventure Aime ta marque et j'ai super hâte, dans le fond, de vous présenter tout ce que j'ai préparé de ce côté-là. Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler de networking de contenu, qui est un terme que j'ai inventé, ou du moins que j'utilise quand j'ai commencé à parler pas mal de notoriété. Ah, et avant qu'on plonge vraiment plus spécifiquement, il y avait une dernière annonce que je voulais faire, je m'excuse, je viens juste de m'en rappeler, c'est que l'épisode d'aujourd'hui est le dernier épisode de la saison, entre guillemets. Il n'y a jamais vraiment eu de saison avec l'ambition au féminin, mais là, je prends une pause jusqu'à l'automne, et donc je voulais juste vous avertir qu'il y aurait une pause d'épisodes de podcast pendant quelques semaines, et on va être de retour au mois d'août avec des nouveaux épisodes. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, le networking de contenu, un terme que j'ai commencé à utiliser récemment en réfléchissant justement au programme que je crée avec Money Brand et qui est un programme holistique de stratégie de notoriété durable et organique. Et quand je réfléchissais à comment je voulais structurer le programme et aux aptitudes qu'il faut développer en lien au contenu, parce que ma philosophie, c'est que peu importe les stratégies qu'on va utiliser, peu importe les outils qu'on va utiliser, tout peut fonctionner. Il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que d'autres parce que c'est tellement circonstanciel, c'est tellement contextuel la façon dont on va créer notre écosystème de marque qu'il faut mettre en place des bons réflexes. Et dans le fond, c'est ces réflexes-là que je veux vous amener à réfléchir dans Money Brand et avec, dans le fond, le contenu que je vous partage en lien à la création d'images de marque, à la création de personal brand et de notoriété at large grâce aux outils du web. Et naturellement, ben, quand je voulais réfléchir à toute cette notion de réseau à travers notre création de contenu, je réalisais qu'il n'y avait pas vraiment de terme pour en parler et le terme qui me venait le plus naturellement, c'était celui de networking de contenu, content networking. Alors, qu'est-ce que le networking de contenu, comment je le définis plus spécifiquement? Eh bien, c'est une façon, une méthode d'utiliser le contenu pour asseoir notre crédibilité et notre notoriété grâce à un réseau intentionnel d'influence. Puis là, inquiétez-vous pas, je vous ai fait une petite définition qui était un peu plus académique, je dirais, mais si on va à travers chacun des termes, tu sais, asseoir notre crédibilité et notre notoriété, c'est-à-dire vraiment créer cet écosystème de notoriété-là dont j'ai parlé dans l'épisode 85, où je parlais de comment créer un écosystème de marque. Et le réseau intentionnel d'influence, c'est vraiment quelque chose que j'amène mes clients à réfléchir parce qu'on parle souvent de l'avatar ou du persona du client idéal, mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on ne parle pas assez de l'avatar ou du persona de l'influenceur. Et là, je parle pas nécessairement juste de l'influenceur style Instagram 10 000 abonnés, mais vraiment des gens qui sont dans notre réseau et qui ont une influence positive sur nos clients potentiels, sur nos prospects, et qui peuvent, eux, devenir des ambassadeurs de notre marque sans même devenir nos clients. Donc, comment est-ce qu'on crée ce réseau-là autour de nous? Comment est-ce qu'on crée vraiment... Puis je pense que le mot « intentionnel » est très important ici parce que c'est vraiment de créer une petite communauté, dans le fond, d'experts, une communauté de gens qui sont déjà reconnus, qui ont leur propre notoriété, qui ont leur propre clout aussi et qui vont, dans le fond, nous aider à établir notre crédibilité et qui vont... empuissancer, si je pourrais dire, mettre en puissance les initiatives qu'on va avoir parce que justement, tu sais, c'est des gens qui vont être en mesure de backer un peu nos initiatives. Puis là, si vous venez d'un contexte académique ou même si vous comprenez un peu comment ça fonctionne dans ce milieu-là, c'est un peu la même histoire de penser, tu sais, est-ce qu'on est cité par des experts? Est-ce que nos recherches ou les essais qu'on va mettre de l'avant ou les publications qu'on va avoir vont être reprises par d'autres gens qui ont déjà établi un certain niveau de respect dans l'industrie, qui ont déjà un following ou qui ont un certain poids dans ce qu'ils ont à dire quand ils prennent la parole. Alors, tout ça se base aussi sur cette idée que notre réseau est intimement lié à nos revenus, à notre positionnement et au type de clients qu'on va attirer. Parce que tout ça est relié, puis ça, c'est vrai qu'on soit un entrepreneur ou qu'on soit en contexte d'emploi, notre réseau va nous permettre de nous élever vers le haut, de nous pousser vers l'avant et vice-versa si on a un réseau qui est faible ou qui est mal positionné ou qui nous amène pas justement vers nos objectifs, ben il peut nous tirer de l'arrière. Donc un réseau intentionnel, c'est hyper hyper important à créer et le contenu est un excellent outil quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour aller chercher ce réseau-là, pour aller chercher ces influenceurs-là. Et c'est notamment comme ça que Aime ta marque a réussi à se faire connaître dès le début et que, dans le fond, ça a été une des meilleures stratégies que j'aurais pu mettre en place pour créer de la valeur autour de mon offre, alors que j'étais même pas quelqu'un qui était reconnu dans le domaine encore, là, que je commençais dès le début. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, puis je vais vous donner des indices ou des outils pour réfléchir à votre propre networking de contenu naturellement. Donc, le lien entre le réseau et le contenu, c'est notamment aussi de se faire voir et connaître par les bonnes personnes. Et là encore, on en revient à toute cette idée d'intention, mais aussi de ciblage. Souvent, on va parler en marketing de bien cibler son client cible. Et quand on parle de réseau, c'est la même chose. On va essayer de bien cibler les influenceurs qu'on veut qu'ils parlent de nous. Et ça, je l'ai vu notamment avec des gens qui vont aller s'associer avec des gens que finalement, c'était pas la même vibe qu'ils avaient, c'était pas la même... pas nécessairement de notoriété, parce que c'était peut-être des gens qui étaient connus ou qui étaient respectés dans leur domaine, mais juste parce qu'il y avait un clash dans les personnalités, ça faisait des associations un peu qui amenaient pas nécessairement à l'objectif souhaité dès le départ. Donc, c'était important de réfléchir à notre positionnement quand on va chercher nos influenceurs, parce que c'est un peu comme notre gang, c'est un peu comme les gens avec qui on va vouloir faire... pas faire le party, mais tu sais... je pense que vous comprenez ce que je veux dire par gang, là, dans le sens de dire comme moi, je me situe dans cette philosophie de faire des affaires, dans cette philosophie du marketing, dans cette façon de faire, tu sais. Puis c'est autant au niveau des sujets, mais aussi c'est souvent des affinités qu'on a avec les personnes, des affinités de personnalité, des affinités justement de vibe et des choses comme ça. Ça nous permet aussi d'être top of mind pour nos clients, d'être top of mind pour nos influenceurs. Puis, si vous avez écouté, là, il y a un autre épisode, je pense que c'est l'épisode 84, mais je suis pas sûre, je vais juste vérifier. J'ai fait un épisode sur le bouche à oreille parce que l'épisode d'aujourd'hui va bien avec cet épisode-là également, parce que dans le fond, ce qu'on veut quand on se situe dans une stratégie de bouche à oreille, c'est que les gens qui vont nous référer comprennent très bien ce qu'on fait et là où on peut intervenir avec nos clients idéaux et qu'ils soient capables d'eux-mêmes de faire le filtre, de dire « Ah ben cette personne serait excellente pour toi ». Et moi, ça m'arrive sans cesse d'avoir des gens dans mon réseau, des coachs, des personnes qui sont très respectées, des personnes qui ont leur propre communauté, leur propre podcast ou des choses comme ça, vraiment m'envoyer des personnes qui sont peut-être allées naturellement vers eux, mais le fit était pas parfait avec leur offre et donc ils ont été capables d'analyser le besoin et ensuite de les envoyer vers moi parce que je suis la référence en termes de positionnement de marque et j'aide certains de leurs clients à combler des choses que eux ne comblent pas nécessairement dans leur programme. Ce qui fait que on devient en tant qu'influenceurs les uns des autres on a des offres complémentaires. Et c'est ça qui est important quand on crée notre networking d'influenceurs et quand on crée cette stratégie de bouche à oreille là, c'est de s'assurer que on a très très bien compris comment chacune de nos expertises nous permettent d'être complémentaires et d'offrir une offre complète à notre client. Et parallèlement, tu sais, moi aussi, dans mon industrie, dans mes coachings ou tu sais, dans la façon dont j'offre mes services, il y a plein de choses que je fais pas. Et donc, d'avoir ce petit black book, c'est comme ça que je l'appelle, c'est mon petit livre noir où j'ai mes références, des gens de confiance que je peux envoyer mes clients sans avoir peur qu'ils vont être mal servis ou des choses comme ça. Je sais qu'ils vont être bien servis. Et pour moi, tu sais, c'est une façon autant de valoriser mon service que de bien référer des gens aux bonnes personnes. Et vice-versa, les personnes qui se font référer mes clients, dans le sens comme ces gens-là, ils vont aussi... on crée des relations de cette façon-là en faisant cette espèce d'échange de clientèle, entre guillemets, mais encore une fois, dans un esprit de complémentarité et non de compétition. Alors, qui sont nos influenceurs? Naturellement, c'est des gens qui ont des valeurs semblables, qui ont des standards semblables. Ça, je pense que c'est important qu'on le note parce que, encore une fois, tu sais, moi, c'est vraiment important pour moi quand je réfère quelqu'un à mes clients que j'aie une idée assez claire du type de qualité que je peux m'attendre parce que c'est un peu moi qui mets mon nom sur cette référence-là. Et naturellement, ben, il faut que ces influenceurs-là parlent à notre public de façon directe ou indirecte, donc qu'il y ait une affinité au niveau du marché, au niveau de l'industrie, au niveau, dans le fond, de qui on sert. Par exemple, je vous donne des exemples. J'ai des coachs de business qui sont beaucoup au niveau de la stratégie d'affaires, qui n'est pas nécessairement quelque chose que moi je fais, qui vont m'envoyer des clients qui sont peut-être pas encore prêts à entamer un coaching parce qu'il y a trop de confusion, il y a trop d'éparpillement. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus important de venir travailler au niveau du positionnement avec moi et ensuite d'aller faire un coaching en stratégie d'affaires avec eux pour, dans le fond, qu'ils puissent suivre une certaine logique ou du moins que ce soit qu'ils puissent en tirer une meilleure valeur au final parce qu'ils vont aller chercher le meilleur de chacun des coachs. Même chose, j'ai des gens qui sont plus du côté copywriting, qui sont plus du côté, on est en, tu sais, pratique, je dirais, genre, tu sais, comme très concret. Et là, ben naturellement, ben si le message est pas clair, c'est parce que le positionnement est pas clair, alors on me les renvoie. Même chose, j'ai des gens qui sont dans les industries plus, eux autres, ils apprennent à faire des cours en ligne, à mettre des choses, à créer des systèmes d'automatisation, mais on peut pas automatiser, on peut pas créer un cours en ligne avant d'être très très clair sur le positionnement et la marque qu'on veut créer. Et ensuite, tu sais, peut-être qu'ils vont aller faire le cours de ce côté-là, puis revenir vers moi quand va être le moment de créer les stratégies de notoriété, où on le fait ensemble en même temps. Bref, il y a beaucoup de complémentarité à ce niveau-là, et c'est comme ça qu'on s'est... Je vais pas dire s'échange, mais tu sais, comme on ouvre les perspectives aussi des clients pour aller avoir une offre très, très complète. Une chose que je voulais peut-être spécifier aussi, c'est que il faut voir le contenu pas simplement comme quelque chose qu'on produit et qui se stoppe. Parce que là, je vous ai beaucoup, beaucoup parlé jusqu'à maintenant des influenceurs, mais maintenant, comment est-ce que le contenu s'intègre dans toute cette dynamique-là? Et la façon dont je le vois, c'est que le contenu lui-même, ben c'est un dialogue. Le contenu nous permet de créer des connexions et des conversations. Et c'est pas simplement une création d'informations. Le contenu, ça n'a pas simplement comme objectif la vente ou la mise de l'avant de nos services ou des choses comme ça. Et c'est ça dont je voulais vous parler avec le networking de contenu, c'est que au début d'Aime ta marque, mon contenu était... J'avais rien à vendre, en fait, à ce moment-là. J'étais vraiment en exploration. Et moi, mon objectif premier, c'était d'aller créer des connexions avec des gens dans le domaine pour qu'on puisse commencer à connaître le nom Aime ta marque. Et qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Ben, d'abord, je me suis proposée pour écrire sur certains magazines web qui avaient une certaine visibilité, qui avaient des valeurs semblables aux miennes et encore une fois qui parlaient selon moi à des gens qui seraient intéressés à avoir mon contenu. Donc, dans mon cas, j'avais commencé à écrire pour Ton Petit Look, qui, à ce moment-là, tu sais, c'était des filles d'à peu près mon âge, c'était des féministes, elles étaient ouvertement féministes, il y avait toute cette conversation autour de l'espace féminin, le public était féminin à genre 99%, et il y avait un gap dans leur contenu, il y avait un manque dans leur contenu qui parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mode, qui parlait de beauté, qui parlait de bien-être, qui parlait de psychologie. Et de mon côté, je voyais pas tout ce qui parlait du côté professionnel. Puis là, je voyais justement une complémentarité de dire, ben regardez, moi, je peux écrire des articles beaucoup plus en lien au professionnel. Et ensuite, ben tu sais, naturellement, j'allais lier vers des articles qu'il y avait sur Aime ta marque et puis commencer à parler un peu de mon expérience comme ça d'entrepreneuriat et des choses comme ça. Alors ça, c'était une des premières choses que j'ai fait et c'est un des premiers types de networking de contenu auquel je peux penser et c'est naturellement ben, le guest posting ou la publication invitée sur certaines publications sur des sites qui ont déjà une notoriété établie et qui ont un lectorat établi. Donc ça, c'est super intéressant. Deuxième chose que j'avais commencé à faire avec Aime ta marque, c'est que j'avais créé une série qui s'appelait Portrait de marque. Et le but de cette série-là sur mon blog, c'était de mettre de l'avant des histoires à succès qui étaient hors de l'ordinaire. Je voulais pas lire les mêmes entrepreneurs ou les mêmes histoires de succès qu'on lisait partout. Je voulais vraiment aller chercher dans... Les pépites d'ambition féminine que j'avais autour de moi, des pépites d'ambition féminine qu'on lit jamais dans les journaux, qu'on lit jamais dans les livres parce que ces personnes-là sont pas nécessairement, bon, des personnes qui sont qui sont beaucoup en ligne ou c'est des sujets qui sont un petit peu plus difficiles à aborder. Puis de ce côté-là, ben c'était super intéressant parce que je voulais montrer aussi un spectre de qu'est-ce que ça voulait dire le succès chez une femme, comment est-ce que c'était compris, l'ambition, comment est-ce que ça c'était vécu. Et puis, ça m'a donné, cette série-là, une opportunité de vraiment aller chercher ces témoignages-là, aller chercher ces histoires, aller parler à des femmes qui étaient justement dans un milieu très successful selon leurs propres conditions. Alors, j'ai interviewé plein de gens, comme par exemple, Stéphanie, qui est une gameuse internationale et qui était une des premières, tu sais, qui a parlé beaucoup de qu'est-ce que c'était d'avoir des messages de haine contre soi quand on est dans un milieu très, très, très masculin. J'ai parlé à une de mes amies qui était devenue la CFO d'une entreprise d'aviation. J'ai parlé à à Jacqueline Francis, qui est Jack the Stripper, qui est une stripteaseuse lesbienne, illustratrice, avec une maîtrise en littérature russe. Bref, genre, tu sais, des gens qui avaient vraiment des histoires uniques et des choses à partager au niveau de des façons individuelles de vivre justement notre succès. Et petit à petit, ben j'ai eu cette aisance autour d'aller demander l'expertise des gens. Après ça, j'ai commencé à interviewer des coachs, j'ai commencé à interviewer des spécialistes en SEO, juste pour vraiment avoir la crédibilité qui venait aussi avec ce qu'elles pouvaient apporter à mon contenu, tout en restant très, très ouverte et en voulant les mettre de l'avant. C'était vraiment ça mon objectif, c'était les mettre de l'avant. Et petit à petit, ben mon réseau s'est agrandi autour de ça parce que c'était vraiment du donnant-donnant, tu sais, comme j'allais vers elle par un intérêt pur et ensuite, moi, je demandais rien en retour autre que leur temps. J'écrivais une pièce sur elle et après ça, ben ça veut pas dire nécessairement qu'elles allaient partager à tout vent, mais ces choses-là sont revenues petit à petit, ne serait-ce que par l'intérêt de d'autres personnes de ma communauté, d'en savoir plus sur ces personnes-là, ou justement par des invitations à aller sur des podcasts, ou moi-même, tu sais, après une conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un, ben là, on a créé un impact, on a créé un lien, et puis, ben, c'est sûr qu'après ça, ben, tu sais, on se tient au courant, on se tient en contact, puis quand on se voit dans des événements, on se salue. Fait que ça m'a ouvert beaucoup de portes à ce niveau-là, de faire ces petits portraits-là aussi, et d'être impliquée dans la communauté que je voulais servir. Parlant d'impliquer, je ne l'avais pas écrit dans mes notes ici, mais ça a été aussi pour moi un moment où je me suis intéressée à tout ce qui était aussi le monde des startups et je me suis intéressée à des projets comme par exemple, il y avait eu Espace L pendant un temps qui était un centre de coworking pour femmes et puis là, à travers ça, ben, j'avais rencontré vraiment beaucoup d'entrepreneurs aussi. Tu sais, il y a plein d'initiatives dans lesquelles je me suis embarquée aussi pour aller créer ces liens-là, ce réseau-là qui, encore aujourd'hui, ben, tu sais, si j'ai quelque chose qui me fait penser à une d'elles ou des fois on se voit, on se rencontre, on va prendre un café, c'est toujours le fun de continuer ces réflexions-là parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'initiatives et qui, après ça, peuvent ouvrir des portes ou, du moins, qui sont en sympathie avec nous et qui vont être des supporteurs de notre succès aussi. Bon, si on en revient au contenu, il y a aussi les événements. Puis ça, c'est une autre chose que j'avais fait avec Amtamar, qui était de créer des événements dans lesquels j'invitais des experts. Et puis là, si vous suivez Amtamar depuis un bout, vous vous rappelez peut-être de Date ton designer, vous vous rappelez peut-être de Date ton GC, pour gestionnaire de communauté, qui étaient deux événements qui allaient faire partie d'une série. Puis là, bon, la COVID, etc., etc., je suis tombée enceinte, les événements, c'était un petit peu plus compliqué. Mais ça m'avait permis de vraiment entrer en relation avec encore une fois, des industries connexes et complémentaires aux miennes, comme par exemple d'être ton designer, c'était avec des designers graphiques pour aider des entrepreneurs à faire un match avec eux, à vraiment comprendre le processus de design graphique et comprendre comment faire un brand qui allait les représenter. Alors vous voyez le lien entre organiser cet événement-là et mes services à moi, parce que pour moi, je fais pas de design graphique, mais je travaille avec beaucoup de designers et mes clients doivent éventuellement travailler avec des designers. Donc, je suis en train d'éduquer cette clientèle-là pour ensuite, quand ils vont avoir besoin de mes services, ils vont pouvoir venir vers moi. Mais aussi, ça m'avait permis d'être mise de l'avant avec la Société des designers graphiques du Québec, travailler avec des designers qui sont des sommités dans le domaine, qui sont des personnes qui sont, tu sais, je veux dire, très, très bien connectées, et donc de rentrer un peu dans leur bonne grâce, dans le sens de dire, comme, j'ai organisé un bel événement, les gens ont vraiment aimé ça, et puis là, mon nom est arriver sur la map, aime ta marque, Tatiana Saint-Louis, etc., etc. C'est sûr que ça m'a connecté aussi avec certains clients par le fait même d'organiser ces événements-là, et ça permet aussi de, tu sais, par exemple, avec Date ton GC, on avait les gestionnaires de communauté de Hydro-Québec, il y avait Rachel Oud-Simard, qui est aussi une personne très établie dans le milieu des communications au Québec et qui était la créatrice et l'administratrice du groupe professionnel des réseaux sociaux et du web au Québec. Donc, encore une fois, un lien avec plein... avec mon industrie, mais avec un grand bassin aussi d'influenceurs qui pourraient voir mon nom, voir que dans le fond, j'étais crédible parce que j'étais associée avec des gens qui étaient déjà très respectés dans leur domaine. Un autre type de networking de contenu, c'est naturellement toutes les affiliations, les partenariats, tous ces projets-là. Puis là, si je reprends encore les exemples d'Aime ta marque, un des meilleurs exemples, c'est... Bon, ben, il y a le FWCC, le Festival Web de création de contenu. Le fait d'avoir contribué à ça, tu sais, c'était non rémunéré pour moi naturellement, mais pour moi, ça, c'est une façon de faire du networking de contenu parce qu'on est en train de créer, genre, des pièces de contenu. Moi aussi, j'étais en train de créer des ateliers pour ça. Et parallèlement, ben, tu sais, je parle à la communauté d'Alexandra, je parle à les communautés de toutes les autres organisatrices aussi. Et pour moi, ben, c'est vraiment un objectif de notoriété que de faire partie de cet événement-là. Même chose avec Catching de Geneviève Gauvin, faire partie de deux éditions de Catching, c'était une belle opportunité d'affiliation, mais c'est aussi une belle opportunité de créer des liens avec des créatrices, de créer des liens avec Geneviève, puis de vraiment, dans le fond, créer des amitiés aussi, là, je vais le dire, parce que c'est un petit peu ça aussi qu'on crée quand on est entrepreneur. Le nombre de personnes qu'on rencontre, pour moi, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée en lançant Aime ta marque. Puis finalement, on n'y pense pas souvent, mais je pense que c'est important de le nommer. Quand on est client, juste consommer du produit de gens qu'on respecte, tu sais, juste se faire coacher par des gens qu'on respecte, inviter des gens qu'on aime, des gens qu'on écoute à venir sur nos podcasts, à venir dans nos programmes pour parler, tu sais, tout ça, ça se fait d'une façon très organique, bien souvent, et on est en train de co-créer ensemble des contenus pour nos communautés respectives, mais aussi de créer des liens ensemble et qui vont ensuite, peut-être que oui, peut-être que non, là, naturellement, les liens qu'on crée sont toujours à nourrir, tu sais, je veux dire, toute relation se nourrit sur le temps, mais je pense que c'est important de se rappeler que quand on devient client de quelqu'un, ça veut pas dire non plus qu'il y a une hiérarchie là-dedans. J'ai beaucoup de gens de qui j'étais client, qui sont redevenus clients de moi ou vice-versa, tu sais, parce que au bout du compte, on n'est pas des compétiteurs, on est tous là pour régler des problèmes les uns des autres. Puis des fois, ben ça passe de cette façon-là, un client qui va me référer ou moi en tant que client qui va me... Tu sais, je veux dire, j'étais la cliente de quelqu'un et puis cette personne-là va me référer d'autres de ses clients, bref. Fait que tu sais, Quand on pense au networking de contenu, il faut vraiment le penser comme cette espèce d'écosystème qu'on est en train de créer autour de nous et les différents points de contact qu'on est capable de faire autant avec notre clientèle, mais avec nos influenceurs. Et je pense que c'est ça vraiment qui manque en ce moment dans les stratégies de notoriété, les stratégies de contenu qui sont enseignées, c'est de voir la notoriété comme ou la présence web comme quelque chose d'holistique qui ne se fait pas en silo, qui ne se fait pas par tactique unique, mais qui doit vraiment vivre de façon organique et durable et holistique. Je pense que je l'ai déjà dit. Donc, quand on crée des stratégies de contenu intentionnelles, c'est là vraiment que je pense qu'on peut vraiment aller attirer organiquement cette... on peut faire cette attraction de clients de façon très organique. Et par la même occasion, on se fait des amis dans le milieu entrepreneurial. Et ça, pour moi, encore une fois, ça n'a pas de prix parce que si je le répète, your network is your net worth, mais c'est tellement plus agréable de travailler avec des gens qu'on respecte, d'être entouré de gens qu'on respecte. Puis moi, quand je regarde qui est autour de moi, qui est autour de M ta marque, qui va backer M ta marque, qui va partager mes contenus, eh bien, c'est là que je sais que j'ai réussi parce que c'est des gens que, individuellement, je respecte énormément. Puis savoir que je fais partie de leur groupe, ben ça, c'est une rétribution que je pourrais pas exprimer autrement que par une immense reconnaissance. Alors voilà, j'espère que ça vous a ouvert un peu les yeux sur une autre dimension du contenu, sur quelque chose qui va encore plus loin que simplement juste écrire pour générer des leads, mais vraiment de l'écrire comme dans un de créer du contenu comme dans un écosystème total. Et naturellement, ben, si vous voulez initier une stratégie de networking de contenu intentionnel, si vous voulez rentrer ça dans vos objectifs aussi et dans la façon dont vous pensez votre business et votre contenu, eh bien, envoyez votre application à MoneyBrand à moneybrand.co. Je vous laisse les liens dans les notes de cet épisode. Sur ce, je serais hyper curieuse d'avoir votre retour sur cette notion de networking de contenu, de content networking. Et puis, je vous dis bon reste d'été, bonnes vacances encore une fois si vous ne les avez pas pris. On se retrouve dans le podcast à l'automne. Et si vous ne me suivez pas encore sur l'infolettre, c'est là dans le fond que je mets toutes mes annonces. Alors, si vous voulez vous assurer que vous n'allez pas manquer le podcast quand il va revenir, mtamarque.com/infolettre. Alors, au plaisir de vous voir et souhaitez-moi toutes vos bonnes énergies pour mon lancement qui approche. J'ai très, très hâte de vous voir si vous vous inscrivez à ce groupe inaugural de MoneyBrand. Et autrement, on se retrouve dans le podcast. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!